Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marine Gatt et Yann Houlard. Bonjour Marine et Yann.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, c'est bien ça?
C'est ça.
Tous les deux?
Oui, urbaniste, tous les deux. On peut dire aussi.
Architecte urbaniste, tous les deux.
Oui. Bon. Super. Membre du collectif Maya.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez été invité dans Comme d'Archi parce que vous êtes les heureux lauréats d'Europan 17 sur un projet à Belle-Île-en-Mer.
Oui. Exactement, c'est à Le Palais, exactement.
Oui,
à Le Palais. Palais, sur le quai Jacques Leblanc, c'est ça? Ou c'est le palais, entièrement le palais?
C'est entièrement le palais.
Entièrement le palais.
Et même une vision de l'île aussi en soi.
D'accord, ok. Alors, je vais commencer par autre chose. Qui est une histoire de goût. Et le goût, c'est aussi le choix. Donc, vous faites plein de choix en architecture, mais vous en faites aussi pour vous nourrir. Aimez-vous les plaisirs de la table et quels sont vos mets préférés? Un souvenir gustatif. On commence par Marine ou Yann?
On va commencer par nous deux.
Ouais.
D'abord. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. On aime bien manger, mais on aime bien faire la cuisine. Et que même quand on travaille, on trouve des moments de pause où on va se cuisiner un petit truc assez rapide. Mais voilà, on aime prendre une pause, manger ensemble et partager un petit peu de temps ensemble pour penser à autre chose, on va dire, que le travail.
On peut dire que le process de travail de Collectif Maya, c'est aussi la cuisine et autour de la cuisine, on va dire.
Voilà.
Et si je devais commencer un peu avec un souvenir, je pourrais dire un peu les crêpes de la Chandeleur de ma maman quand j'étais petit. Elle en faisait plein et c'était vraiment une enfance un peu comme ça heureuse autour de la nourriture. Mais j'aimerais plutôt parler du souvenir en fait de quelque chose qui est un peu plus récent. C'est la fideuà de ma belle-mère. La fideuà, c'est un plat un peu comme une paella mais avec des pâtes qui font dans la région de Valence. Et en fait, elle fait ça souvent au moment des vendanges, ils ont des vignes. Et quand elle fait cette fideuà, en fait, il y a une sorte de rapport à la culture donc des raisins quand ils font leur vin. Et ensuite, on ramasse tous les raisins pendant la journée, etc. Et ensuite, ils font une grande célébration avec un grand repas dans la bodega, dans la cave, non?
Okay.
Et en fait, il y a un peu ce rapport-là au paysage, aux traditions culinaires, qui est un peu quelque chose qui a irrigué un peu ma vision de l'architecture, parce que quand on fait un bâtiment, oui, il faut penser au paysage, au bâtiment, au style architectural, mais en fait, toutes ces traditions culinaires, cette identité qu'ont les gens d'un territoire, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête quand on fait de l'archi, en tout cas de l'urbanisme.
Et de mon côté, je dirais plutôt que c'est les origines bretonnes. Ma grand-mère était 100% bretonne, donc elle cuisinait 100% au beurre. Et il y avait aussi tout ce plaisir du partage autour de la nourriture et aussi cette grande générosité.
Où en Bretagne? Parce qu'ici, on aime bien la Bretagne.
Le Finistère. Et par exemple, elle passait des heures à cuisiner. J'allais la voir, j'étais toute seule et elle avait préparé 3 gâteaux. Donc c'était vraiment cette générosité abondante. Et je pense que peut-être que ça se retranscrit aussi dans mon architecture. Des fois, j'essaye d'être trop généreuse, d'en faire trop, c'est peut-être vrai.
Mais vous allez apprendre à économiser votre geste et votre pensée. On dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Ouais. En architecture, comme on est passionné,
c'est vrai.
Est sans limite. Bon, alors on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? On a déjà deviné des petites choses à travers ce que vous venez de dire. Où s'est ancrée votre envie d'architecture, ce désir d'architecture? Et quelles ont été vos études?
Alors, de mon côté, j'ai eu un parcours plutôt classique. Je me suis pas posé trop de questions. Depuis assez petite, je dirais que je savais que je voulais devenir architecte. J'aimais beaucoup dessiner, regarder les choses, essayer de comprendre la singularité des choses, surtout pendant les voyages ou des choses comme ça. Donc, j'ai aussi grandi dans une petite ville, en Île-de-France, dans les Yvelines, qui est assez protégée, où il y a encore beaucoup de nature, avec des champs, de la forêt. Donc, j'ai vécu au calme. Et puis, ensuite, j'ai dû aller à Paris pour les études d'architecture. J'ai été diplômée en 2021 de l'ENSA Paris-Val-de-Seine. 15 jours après mon diplôme, j'ai déménagé à Barcelone pour y travailler. Et là, à la suite d'Europan, j'ai repris mes études. et je suis en diplôme de spécialisation et d'application en risque majeur à Paris-Belleville. Voilà, c'est une formation de 2 ans que je viens de débuter.
D'accord. Et cette formation vous amène à travailler en agence aussi ?
Oui, en fait, c'est assez ouvert. On peut travailler en agence, en aménagement du territoire, dans des ONG. C'est très ouvert, en fait. C'est apporter des nouvelles connaissances aux architectes dans le domaine, par exemple, des séismes, des cyclones, de l'inondation, de la submersion, mais aussi de l'habitat indigne. Et c'est comprendre les risques sur les territoires et faire projet avec.
Vous avez déjà une appétence pour je sais pas, le cyclone, la submersion ?
Alors, le semestre dernier, on a fait le séisme et les cyclones. Et le semestre prochain, là, qu'on va débuter, ça sera sur l'inondation et la submersion. Je dirais que la suite d'Europan, ce qui m'a vraiment questionnée, c'est le côté submersion, montée des eaux.
Oui.
Et j'ai vraiment hâte du semestre prochain. Et c'est vrai que c'est peut-être des questions que j'aimerais pousser plus tard. Et pourquoi pas en faire un doctorat, mais pour l'instant, j'en suis pas sûre, parce que c'est quand même encore une autre étape. Mais l'aménagement du territoire face à la submersion, c'est quelque chose que j'aimerais bien penser, on va dire, enfin y réfléchir.
Alors il y a déjà des agences qui se sont emparées du sujet,
oui.
Ça y est.
Oui.
De plus en plus,
c'est très important.
On en a reçu ici déjà dans Comme d'Archi, vous les avez peut-être écoutés d'ailleurs.
Je voulais juste rajouter qu'elle a énormément de mérite parce qu'elle travaille, elle fait ses études en même temps, et en même temps on est en train de développer tout le projet Europan. Donc en fait, elle ne ménage pas trop sa monture en ce moment, justement.
Bon.
Et peut-être un côté générosité.
Donc vous travaillez en agence.
Oui.
Alors Yann, sur votre parcours.
Du coup, alors pour ma part, je suis né et j'ai grandi à Pau, dans le sud-ouest de la France. Et comme Marine, j'ai pas eu trop de questions. Tout de suite, j'ai voulu être architecte. Et je pense que la région et la ville dans laquelle je suis né, ça a justement toute son importance parce que c'est une ville qui a une architecture assez incroyable, avec des villas du 19e siècle totalement fantasques et éclectiques. Et c'est vrai que quand j'étais petit, que je me baladais avec mes parents, quand je voyais tout ça, ça me donnait vraiment énormément envie de faire la même chose, de faire la ville comme ça et des choses qui interpellaient. Et puis en plus, c'est une ville qui a un rapport au paysage hyper important, avec la vue sur les Pyrénées, et puis vraiment une interconnexion entre nature et urbanisme et architecture assez importante. Et c'est vrai que ça a un peu irrigué toujours un peu ma vision et mon envie de faire de l'architecture. Et donc après, quand j'ai eu 17 ans, je suis parti faire mes études à Paris. J'ai un peu tracé comme ça jusqu'à obtenir mon diplôme en 2018. J'ai fait un an d'Erasmus à Prague.
Paul.
À l'ANSA Paris-Val de Seine comme Marine.
Tous les deux.
Tous les deux, oui. On a les parcours très similaires, avec quelques années de différence, mais les mêmes parcours. Et puis, donc du coup, j'ai fait un Erasmus à Prague pendant un an. Ça m'a vraiment ouvert au monde. J'avais toujours vécu en France, j'avais peu voyagé. Et ça m'a donné envie d'ailleurs et de me confronter aussi à d'autres regards, à d'autres façons de faire. Et c'est pour ça que dès que j'ai terminé mes études, je suis aussi parti vivre à Barcelone. Où d'abord j'ai travaillé dans une petite agence qui faisait beaucoup de patrimoine, de restauration de patrimoine, d'intervention sur le patrimoine. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'ils avaient une façon un peu humble de travailler où l'action de l'architecte n'était pas forcément visible. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre pratique de l'architecture. Et puis ensuite, j'ai intégré la même agence que Marine, dans laquelle je suis depuis 5 ans.
Qui est
une Archicubique, une agence franco-catalane qui fait beaucoup de projets urbains et pas mal d'archi aussi. Et j'en dirige maintenant le pôle concours.
C'est une bête de concours. Vous êtes transformé en une bête de concours.
Exactement.
Oui, il n'y a pas longtemps, on a reçu Manal Rajdi qui a ce profil. Mais lui, il a été très haut, très vite. Je vous souhaite la même réussite.
Petit à petit. On ne va pas se mettre la pression. Mais...
Cette agence, c'est à peu près combien de l'effectif est de
On est 25 à peu près.
Oui, c'est 25, ça, 25.
Ouais. Okay. Et on fait beaucoup de projets en France, d'architecture, d'urbanisme.
Mmh. Ils ont fait la grosse cité Gagarine-Truyot, par exemple, qui sont développés.
Mmh.
Et Marine, par exemple, est en train de gérer la ZAC Maison Blanche aussi. Qui est,
à Neuilly-sur-Marne. Voilà. Mmh. C'est un ancien hôpital psychiatrique.
Mmh. C'est fort intéressant tout ça. Donc, vous avez déjà répondu à la question quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte.
Oui, c'est ça.
Alors, là, vous venez de gagner Europan.
Oui.
L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école?
Alors moi je dirais oui et non. C'est très nuancé. Bon déjà je suis retournée à l'école, mais oui. Par rapport à ce que j'ai appris à l'école, je trouve qu'on a vraiment, l'école nous enseigne à être très créatif, à avoir vraiment ses propres convictions, et parfois c'est très utopique les projets qu'on va rendre. Et ça nous aide en fait à être l'architecte qu'on voudrait devenir et avoir des vraies convictions, mais que dans le milieu du travail on va un peu perdre ces convictions.
Et en fait, quand on est en agence, quand on travaille un peu dans ce monde, un peu l'immobilier dans lequel on évolue dans l'agence dans laquelle on est, on se rend compte que souvent, pas tout le temps, mais souvent quand même, ce qui mène le projet, c'est peut-être l'Excel du promoteur. Et ça rend un peu triste parfois parce qu'on se dit que là où on pourrait plutôt mettre en avant l'intérêt général, c'est peut-être dans ces cas précis, plutôt l'intérêt d'une seule personne à un moment T qui est mis en avant. Et du coup, c'est un petit peu dommage dans la pratique de l'architecte où on se met peut-être un peu de côté, on met un peu nos convictions de côté pour faire des choses qui sont un peu plus dans une logique de rentabilité générale. Et ça,
ouais, donc, c'est une vieille histoire.
Ouais, c'est un truc qu'on entend souvent. Mais...
Ouais.
Et heureusement qu'il y a Europan qui nous a permis de remettre, on va dire, sur le tapis nos convictions, nos idées, nos volontés. Que peut-être, je ne dirais pas qu'on commence à oublier, mais c'est vrai que parfois, on les met tellement de côté que... Bah que ça peut attrister, on va dire, du métier qu'on est en train de faire, enfin qu'on s'imaginait, c'est plutôt ça, qu'on s'imaginait quand on sort de l'école. Et c'est ça qui est intéressant dans Europan, c'est qu'en fait, on revient à l'essentiel de ce qu'on nous a appris, aux questions qu'on se pose et auxquelles on aimerait répondre. Et je trouve que c'est ça qui est fort, en fait, dans ce concours.
Et ce qui est fort d'Europan, c'est que ça peut permettre d'accéder à la commande publique, mais sans jamais, dans le processus du concours, renier nos convictions. Au contraire, on nous pousse à développer des convictions, à mettre... Nos regards, on va dire nos sensibilités qu'on a chacun sur le projet architectural, ben on a pu y aller à 100% parce que justement, Europan, ben ça met en valeur justement d'autres regards que ceux qui seraient peut-être ceux du quotidien d'un architecte en agence qui a une logique de rentabilité qui est inhérente au fait d'avoir une structure.
Oui, il faut rentrer l'argent pour payer les salaires.
Exactement.
Et comme Europan, on ne sait
très
pas
prosaïque.
Ce qui va se passer, on va dire ça comme ça, on donne tout et puis, puis on voit bien. Quoi.
Et ça n'a pas fait partie de notre équation en tout cas en faisant le concours.
Non. Ouais. Et puis, vous citiez votre spécialisation. On a reçu au micro Iris Chervet,
oui.
Qui est lauréate pour la troisième fois.
Je l'ai eu en professeur, Iris, en cinquième année. Oui. Elle était professeure à Val-de-Seine.
Bon, bah, coucou Iris.
Alors. Coucou Iris. Oui, non, c'est assez extraordinaire son parcours.
Son parcours, oui.
Et la qualité de sa proposition en général aussi. Est toujours hyper... enrichissante, et en plus, nous, ça a toujours été un peu... Enfin, quand on a fait Europan, on a toujours été un peu irrigué par sa vision, quoi.
C'est une belle image.
Ouais, elle a une vision très globale.
Irrigué par la vision d'Iris. Quand on connaît sa spécialité, et puis la vôtre, c'est chouette.
Pour parler un peu d'Europan, ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est donc rencontrés au travail. Marine m'a proposé... on avait déjà travaillé sur des concours ensemble au travail. Marine m'a proposé de faire Europan ensemble. Et ce qui était chouette dans cet Europan, c'est qu'on a chacun un peu... On avait des appétences au niveau architectural et urbain assez différentes. Et on a un peu mis ensemble ces deux regards. On a croisé ces regards pour faire la proposition.
C'est vrai qu'on a des intérêts, je dirais, qui se complètent, en fait. Moi, j'ai plutôt une appétence pour ce qui va aller vers... Enfin, l'architecte urbaniste qui va toucher au changement climatique et à ses risques, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour moi, en fait, l'architecte, il a la possibilité de donner des réponses pérennes à ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, la réponse est souvent dans l'urgence.
On agit une fois qu'il y a eu la catastrophe.
Voilà, c'est ça. On agit une fois qu'il y a eu la catastrophe. On pense rarement en amont, avant que les choses arrivent. Et peut-être on pourrait mettre ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui à Barcelone. Il faut savoir qu'en Catalogne, ça fait 3 ans qu'il y a une sécheresse qui est très forte. Et qu'aujourd'hui, ils ont réaménagé le port pour faire venir de l'eau par bateau qui vient de Marseille ou de Majorque. Et qu'en fait, cette ville est très touristique. Et donc le touriste, lui, il va continuer sa vie. Il prend 5 fois plus de douches qu'un habitant.
Puis il y a très beaux hôtels.
Voilà. Là-bas.
Et puis les habitants... des hôtels là-bas aussi. Pas mal.
Les habitants, on va leur dire à partir de l'hiver, non, ton débit d'eau au robinet, il est diminué. Tu vas payer beaucoup plus cher ton eau. Alors que de l'autre côté, on a ce touriste qui continue sa vie comme s'il était dans un endroit où il ne se passe rien. Et c'est vrai que c'est quand même attristant de voir qu'on cherche toujours à répondre dans l'urgence et qu'on a toujours cette question d'économie, encore une fois, où il ne faut pas que le touriste il passe un mauvais séjour, sinon il va faire mauvaise publicité à la ville. Et à côté de ça, non, les habitants, ce n'est pas grave, ils sont résilients, de toute manière. Et en fait, on ne leur donne pas le choix.
Et moi, en parallèle, mon appétence était plutôt sur celle du lieu, la sensibilité du lieu, proposer une architecture qui est toujours un urbanisme qui est le plus intégré possible en permanence et toujours avec un point de vue assez sociologique, si on peut dire. Enfin, c'est un peu un gros mot, on est que architecte urbaniste et pas sociologue. Mais en fait, il y a cette volonté un peu de faire avec les habitants, de tirer les forces du territoire et que notre proposition elle, soit assez humble et qu'elle soit plutôt dirigée vers ceux qui connaissent vraiment le territoire, pas forcément nous. Nous, on peut l'analyser, on peut en comprendre certaines choses, mais la vraie richesse d'un territoire, c'est à travers ses habitants et avec ce qu'ils peuvent nous raconter de ce dernier. Donc c'est ça. Et j'avais un peu en tête, par rapport à ça, en fait, ce qui est fait à Barcelone sur l'espace public est assez incroyable, où en fait, le projet urbain, il est au service des habitants. Il y a beaucoup plus d'argent qui est mis dans l'espace public, à Barcelone par exemple, que dans quelconque ville en France. Et donc, peu importe les trottoirs, les rues dans lesquelles on est, c'est vraiment fait pour les habitants. Et finalement, les habitants à Barcelone, ils vivent plus dans la rue que chez eux. Et du coup, c'est assez intéressant de se dire que le travail de l'architecte, la sensibilité au lieu, le fait de faire pour les habitants et avec les habitants, ça peut pousser à avoir des espaces publics beaucoup plus qualitatifs et où les gens, au lieu de s'enfermer chez eux, ils s'ouvrent à l'autre, etc. Quoi.
Oui, puis c'est peut-être aussi réparer ce que le Covid a semé.
Aussi.
C'est vrai.
Et que ce que les guerres provoquent aussi en peur.
Oui.
Ouais.
On a plus tellement envie de pratiquer l'espace public en ce moment.
C'est sûr.
Et ça, c'est...
Alors que là, je sais pas moi, là où j'habite en fait, en bas de chez moi, c'est une des rues qui a été récemment transformée. En fait, c'est une rue qui est en sens unique et qui est pas vraiment faite pour la voiture. Enfin, il y a des sens interdits partout. Par exemple, tous les dimanches, en fait, c'est y a des gens qui vont venir installer des tables, barbecue, les enfants qui viennent jouer.
C'est super bloc.
Voilà, enfin, on a l'impression en fait d'être dans une grande ville, mais il y a aussi la partie village, la partie tous les enfants qui vont à l'école ensemble. Voilà, ils vont jouer ensemble. Ils jouent aux échecs ensemble, enfin, ils s'échangent des cartes, voilà tout ça. On perd un peu cette vision, j'ai l'impression, moi, de la grande ville où les gens ne se connaissent pas, se disent pas bonjour. Tout le monde se connaît. Et
le dernier point qui a un peu irrigué aussi notre réflexion, c'était le fait d'essayer de proposer une architecture honnête. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, où on est un peu dans un monde où il y a souvent du greenwashing, où on n'ose pas dire les choses parce que ça peut faire peur. Alors que chaque proposition qu'on peut faire en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, ça a du sens. Et donc, en fait, finalement, si on fait un bâtiment en béton, il y a sûrement des raisons pour faire le bâtiment en béton, qu'elle soit économique, climatique, etc. Enfin, il y a plein de raisons et il ne faut pas avoir peur de dire que je fais un bâtiment en béton plutôt qu'un béton décarboné, etc., qui est finalement la même chose. Mais en tout cas, essayer d'oublier un peu le greenwashing et de mettre en avant vraiment pour de vrai une architecture honnête et mettre les vrais mots sur les vraies choses qu'on fait. Ça permet, je pense, de faire les choses
bien.
Mieux.
Ok. Alors, vous êtes trois, non, sur ce...
On est trois.
Oui,
est
alors trois. Peut-être que vous pouvez parler de...
Oui, bien sûr.
De Fanny.
Oui, en gros, Collectif Maya, c'est nous deux. Et l'idée, en fait, quand on a fait le Collectif Maya, c'était effectivement, on est deux, peut-être, des architectes, deux locomotives, mais qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on a envie de s'entourer de gens d'autres disciplines et d'autres disciplines un peu de partout, peu importe, ça dépendra des projets. Et que ces personnes, elles soient pas là en tant que seulement experts de leur sujet, mais qu'elles aient aussi un regard global. Et donc, quand on a fait Europan, moi, j'avais ma meilleure amie qui était hydrologue. Et du coup, je lui ai demandé vu que c'était le sujet, c'était le palais, la montée des eaux, etc., on lui a demandé de se joindre à nous pour justement nous aider sur d'abord cette partie-là, plutôt gestion des ressources en eau. Et au final, elle a été
Au final, elle nous a donné son avis aussi sur l'architecture, en fait. C'est ça qui était intéressant.
Elle avait du recul.
C'est ça. Nous, on avait le nez dans le guidon, on faisait des propositions parfois... c'est au repos, donc en fait, il n'y a pas de limites. Donc on était sans limites. Et elle, qui n'a pas du tout cette formation, était là... Bon, les gars, vous... ça ne va pas du tout ce que vous faites. Et c'était vraiment très intéressant. Enfin, elle nous a apporté des connaissances, mais sur nos propres connaissances, elle nous a aussi aidé à nous remettre en question. Et je pense que c'est quelque chose de fort... En fait, il faut que l'architecte travaille avec d'autres corps de métier pour répondre à des questions où, en fait, ça touche tout le monde. Et donc, c'est pas que l'architecte ou l'urbaniste qui est capable de répondre. Il faut de la transdisciplinarité pour pouvoir faire...
Et cette transdisciplinarité, c'est pas seulement d'écouter ce que les avis d'experts dans un sujet précis, mais c'est hyper important que tout le monde puisse opiner avec son propre regard sur le projet pour qu'il soit le plus riche possible. Parce que du coup, elle nous disait des choses de temps en temps qu'on n'avait plus en tête parce qu'on était trop lancé loin. Et du coup, ça, c'était une sorte de grand frein qui était hyper salvateur parce que du coup, la proposition, elle répondait à des questions qu'on ne s'était pas nous posées en tant qu'architecturaliste.
Vous pouvez citer son nom ?
Fanny Picourla.
Voilà, il manquait le nom de famille. Merci. Alors, c'est toujours compliqué de créer l'équilibre entre... Vous avez une réelle compétence et il faut être sûr de vous dans cette compétence-là. Mais en même temps, il faut accepter qu'elle soit remise en question et que les cartes soient rebattues.
On ne sait rien.
Voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase m'accompagne un petit peu trop depuis trop longtemps, d'ailleurs. Il faut s'en méfier, elle est dangereuse.
Non, c'est une chose, justement avec Fanny, ouais. qui est du coup scientifique, c'est quelque chose, je me suis rendu compte, plus ça va, plus les années, plus ses études augmentent, plus maintenant elle est docteur en hydrologie, et plus elle doute de ses propres convictions, oui. Et je trouve ça hyper salvateur et hyper bon. Ouais.
Je pense que plus on apprend, plus on se pose des questions, et plus on remet les choses en question aussi.
Ouais. Ouais.
Donc c'est une chaîne sans fin.
Ouais.
Il pourrait apprendre.
C'est bien.
Oui, oui. Et bah, il faut savoir bien cadencer tout ça.
C'est vrai.
Alors... Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant votre projet ?
Ok. Alors, le projet, il est à Le Palais, à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, donc en Bretagne. L'intitulé de Ropan, c'était « Laboratoire d'une question planétaire ». Donc déjà, on rentre dans le grand bain. Enfin, c'est...
Un
gros morceau. Aucun de nous deux n'était allé à Belle-Île avant. On ne connaissait pas. Et on s'est très vite rendu compte que Belle-Île portait bien son nom. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous les deux en train de tomber amoureux de ce petit bout de terre. Enfin, il y a vraiment, c'est un condensé de paysages et aussi la population. Enfin, c'est insulaire et c'est à une heure du territoire. Donc, par exemple, l'autre jour, j'y étais. Je parle avec un monsieur qui a été qu'une seule fois sur le continent.
Et, extraordinaire.
Il a vu qu'une seule fois le continent et il s'est dit plus jamais. Voilà. Oui.
Ouais. Si on doit un peu décrire le palais, en fait, c'est une ville portuaire. C'est une ville parce que c'est de 1500 habitants, il me semble. Il y a vraiment une sorte d'entraide où les habitants ont énormément de place dans cette ville. On y a été du coup, y passer une semaine pendant le concours rampant pour essayer de s'imprégner au mieux. Et on se rendait compte en fait que bah, il y avait rien à envier à notre vie barcelonaise où oui, il y a plein de bars, etc. Mais finalement, on est un peu souvent tout seul. Et là, les gens sont vraiment tous ensemble. On sentait qu'il y avait des rendez-vous entre jeunes, etc. Enfin, c'était assez intéressant. Et puis, le palais en lui-même, c'est une ville avec une histoire, celle des citadelles de Vauban, très militarisée. Et c'est pour ça que notre projet s'appelait « Défendons les Palatins ». C'est une ville aussi avec qui est en fait la porte d'entrée de l'île, donc il y a énormément de voitures parce qu'il y a des ferries qui arrivent l'été tous les quarts d'heure, donc vraiment des défilés de voitures, mais très localisés dans le temps parce que c'est vraiment ou l'entrée ou la sortie des voitures à l'heure du ferry. Et puis c'est aussi une ville avec un patrimoine au-delà du patrimoine militaire très beau, quoi. Enfin,
très coloré.
Ouais. Et le projet avec tout ça, parce que ouais. Du coup, pour nous, c'était aussi important de parler un peu du territoire, parce que le projet, il est né de ça, et on voulait vraiment le plus possible faire avec.
En fait, l'idée, c'était d'abord de voir à l'échelle de l'île, et de comprendre en fait les ressources, puisqu'on est sur une île, et du fait d'être sur une île, la construction, c'est très compliqué, c'est très cher. Donc, essayer de comprendre avec quoi on pourrait construire sur l'île, au lieu de faire venir des parpaings du continent, comme on l'appelle. Il y a aussi... une offre de logement qui est difficile pour les insulaires, puisqu'il y a énormément de Parisiens qui viennent acheter des maisons, qui font monter le prix des maisons. Et donc, il y a beaucoup d'insulaires qui peuvent juste pas avoir accès au logement. Et donc, aujourd'hui, par exemple, le maire de Le Palais essaye d'augmenter la part des logements sociaux dans sa commune et essaye de faire plein de nouveaux projets pour que, en fait, les enfants bellillois puissent rester vivre sur leur île et ne pas devoir partir sur le continent. Il y a aussi la ressource en eau qui est un réel problème, puisqu'ils n'ont pas de nappe en fait sur l'île. Et donc c'est que l'eau de pluie qui est réutilisée pour tout sur l'île. Et donc en fait on est dans d'un côté on a toutes ces choses qui sont liées plutôt à de l'anthropique, on va dire la pression anthropique, et de l'autre côté on a la montée des eaux et la submersion. Puisque comme Yann l'a dit, il y a une partie qui est au niveau du port, qui donc a une très faible altimétrie. Et les quais ont déjà été rehaussés. Par exemple, aujourd'hui, tous les rez-de-chaussée commerciaux, il faut descendre plusieurs marches pour aller dans la boutique. Et quand on regarde donc ces quais, on voit qu'il y a aussi des bâtards d'eau qui doivent faire 1 mètre, 1 mètre 50. Et aujourd'hui, ça suffit plus. L'eau rentre dans le magasin Et par exemple, il y a certains magasins qui, à cause de l'eau, vont tout perdre puisqu'il va y avoir un problème électrique ou quoi que ce soit. Et donc, ils perdent tout. Donc, en fait, rehausser le quai, aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus une solution. On est dans une commune qui n'a pas beaucoup d'argent et qui, en fait, doit payer. S'il faut rénover le quai, c'est à eux de rénover. S'il faut rénover la digue, c'est à eux de payer. Et c'est des choses très coûteuses pour quelque chose qui n'est pas pérenne. Oui. On en revient toujours à cette solution d'urgence. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement de trouver une solution pérenne et de réfléchir dans le temps, en fait.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, notre proposition, quand elle dit réfléchir dans le temps, ça me fait penser, en fait, qu'on a une proposition qui prend ses bases en 1815, parce qu'on a regardé les cartes historiques. On a regardé comment était faite la ville au moment où on n'avait pas encore eu cet acte de construire les zones à risque. On a regardé ce qu'était donc le palais à cette époque. On a compris tout ce qu'on vient de dire, finalement, les enjeux, les crises dans lesquelles est aujourd'hui englué le palais, si on peut le dire comme ça. Et donc, notre proposition, c'était de se dire, avec tout ça, avec cette analyse, qu'est-ce qu'on va faire sur un temps très large, avec comme finalité 2100. C'est-à-dire, vu qu'on est dans une petite commune qui a beaucoup de problèmes, on s'est dit, ce qu'il faut faire...
On étale.
On étale et... Le fait d'étaler cette réflexion, c'est aussi une façon d'avoir un projet pérenne.
On a étudié la réponse du GIEC qui a été donnée pour le scénario le plus extrême. Et en fait, on a modélisé avec Fanny. Fanny a modélisé cette montée des eaux. Et après, on a aussi regardé ce que ça pouvait ajouter en temps de submersion. Et donc, l'idée, c'est de concevoir le projet avec ce scénario extrême auquel on semble tendre, on va dire, aujourd'hui. On n'en sait rien puisque c'est des scénarios. Mais qu'en fait, ce projet, il essaye de donner une réponse à ce scénario et dans le temps.
Ouais. Et donc, du coup, les bases qu'on a prises, c'était une montée des eaux de 40 cm en 2050 et d'1,10 m en 2100. Ce qui est quand même assez raisonnable en réalité par rapport aux projections du GIEC. Et donc, du coup, avec cette base-là, on s'est dit, le premier temps, c'était notre temps, nous, 2023, comprendre. Le deuxième temps, c'est celui qui vient donc d'aujourd'hui, on va dire 2023-2024 jusqu'en 2050, où l'idée, c'était une partie des bâtiments qui étaient demandés à la rénovation dans le concours Ropan, les dédier à des lieux pour les habitants, pour parler de notre projet et que ça devienne leur projet, en fait, réaliser un projet fédérateur et aussi offrir de vrais locaux à toutes les institutions de l'île, dans une ancienne colonie qu'il y a sur l'île, pour permettre les interconnexions entre institutions, la CPIE, la communauté de communes, il y a un coworking qui est sur place, en fait, en tout cas, promouvoir ces échanges entre acteurs du territoire pour pouvoir aller le plus possible vers des solutions consensuelles.
C'est se donner les moyens de répondre.
C'est ça. L'idée, c'est de se préparer au risque, en fait. Mmh. C'est qu'on discute ensemble de quelles réponses on va pouvoir donner et comment la population va prendre en compte cette réponse. Puisqu'on se rend compte, là, par exemple, j'ai été au vieux du maire il y a quelques semaines et on a présenté des planches et on a présenté une planche qui montrait justement ce qu'on veut faire en 2100. Et c'est vrai que les habitants étaient là... C'est vraiment ça qui va se passer ? Parce qu'aujourd'hui, on ne leur a pas présenté le projet en détail. Et en fait, ils s'en rendent compte aujourd'hui que les solutions, c'est... on ne les a pas, on n'a pas les clés en main, mais qu'ils font partie prenante du projet, puisque c'est vraiment eux que ça atteint.
Oui, en fait, vous leur transmettez aussi beaucoup de données, j'imagine.
C'est ça.
Et vous avez, dans les mesures qui existent aujourd'hui, dans cette montée des eaux, il y a une aggravation significative.
Oui, totalement. Oui.
Vraiment, parce que nous, quand on les a modélisés, parce que dans cette phase jusqu'en 2050, on propose déjà de repenser les quais et de faire des sortes, on va dire, de digues ou en tout cas d'espaces publics naturels, végétalisés, qui permettent, un peu comme un pansement, de répondre à court terme, 2050, à la montée des eaux qui est plus 40 cm, en fait, qui entend de crues, etc. Ça représente plus d'un mètre quoi, par rapport au calcul.
Du coup, ça impose de peut-être abandonner les rez-de-chaussée ?
Pas en 2100. On ne proposait pas en 2050, mais du coup, dans la phase 2100,
oui.
On en arrivait. En fait, on a beaucoup réfléchi avec Fanny et Marine à qu'est-ce qu'on doit faire pour assumer plus de mètres d'eau par rapport au quai. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'était que le plus logique, finalement, c'était que tout ce premier front bâti, il fallait le déconstruire, l'abandonner et accepter que la nature, elle est plus forte que l'homme et que ça pourrait être une solution hyper alarmante. Mais c'est peut-être aussi une possibilité, en tout cas une occasion positive de faire les choses autrement. Et c'est pour ça que dans cette phase 2100, donc certes, on abandonne cette première front bâti qui sera... Enfin, c'est même plus le rez-de-chaussée, c'est le rez-de-chaussée plus le premier étage qui sont sous l'eau. C'est les abandonner, redonner cet espace à la nature, offrir des espaces du coup naturels qui infiltrent l'eau et qui permettent de réduire les problèmes de submersion marine, parce que à Le Palais, pour aller rapidement, c'est la convergence de plusieurs problèmes, c'est-à-dire trop de pluie, plus une marée forte, plus une tempête qui fait que l'eau
sort. Au coefficient de marée aussi.
Voilà, c'est ça. Mmh.
Mais en fait, ça nous permet aussi de garder le patrimoine, parce qu'en fait, on va retirer cette première ligne, mais derrière, il y a d'autres lignes de bâti, et que si on n'agit pas, en fait, c'est presque toute la ville qui va être vouée à disparaître, puisqu'on est quand même sur une altimétrie basse. Et en fait, l'idée, c'est aussi de se dire que ces personnes, comme on va prévoir le projet en amont, on ne va pas leur dire du jour au lendemain, vous devez partir de chez vous. On va venir reconstruire, dès aujourd'hui, leur future maison pour 2100, pour le jour où, en fait, ils se retrouvent sans logement. On essaye de prévoir, bah donc sur ces 70 ans, à la fois cette déconstruction, mais aussi la reconstruction.
Et la reconstruction, l'idée, c'est de le faire sur les hauteurs de Le Palais, là où, dans les 70 dernières années, il y a des pavillons qui sont construits, et densifier le pavillonnaire, qui est quand même un très, très grand sujet français, et que cette densification permette de reloger ce qu'on peut vraiment appeler des réfugiés climatiques.
Mmh. Repenser le rapport à la mer.
Aussi.
C'est ça.
Mmh.
Vous avez un peu regardé ce qui se passe à Saint-Malo ?
Alors moi, j'avais lu un mémoire, je crois, d'un garçon à Saint-Malo qui montrait aussi les cartes de Saint-Malo et à quel point toute la ville allait disparaître. Mmh. Et c'est vrai que quand on faisait le concours Europan, je m'étais pas mal renseignée sur ça. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça...
On s'est surtout renseigné sur ce qui se passait aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas,
et
oui.
Et en fait, leur façon qu'ils avaient de laisser des grandes zones naturelles.
Ils font des parcs, en fait. La réponse est très simple, c'est qu'ils ne vont pas dévier le lit de l'eau, ils vont juste le prévoir plus grand, ils font un parc à la place.
Ouais.
C'est une réponse très simple, et c'est ce qu'on a voulu donner, en fait, en déconstruisant et en faisant un parc.
Et accepter qu'on ne peut pas, enfin, on peut pas toujours...
Il faut absorber.
Voilà, c'est ça.
Et ne plus consommer le littoral.
C'est
on
ça.
Le consomme
exactement.
Plus.
Exactement. Ouais. Et c'est aussi notre réponse, il y avait une volonté de dire, au lieu de construire, parce que c'est toujours un peu la réponse de l'architecte, de construire pour répondre au problème, bah peut-être que cette fois-ci, c'était plutôt de déconstruire et de laisser les choses se passer.
Mais pour reconstruire ailleurs aussi.
Voilà, c'est
pour,
ça.
Pour reconstruire ailleurs, parce qu'on ne va pas laisser les gens sans logement. Mmh. Mais en tout cas, notre idée, c'était un peu de faire bouger les lignes, de faire réfléchir les Palentins sur l'avenir de leur ville et que ça se passait peut-être plutôt sur les hauteurs. Et dans des zones déjà urbanisées. Enfin, on s'est dit vraiment, on n'urbanise pas des zones naturelles. Et changer. Et aussi, c'est un peu faire pansement sur la plaie béante que sont les pavillonnaires en France.
Oui, je pense aussi, l'idée, c'était de réfléchir aux solutions qu'on va pouvoir apporter. Enfin, c'est pas que à Le Palais. Cette question de submersion, de montée des eaux, bah, elle existe aussi dans d'autres endroits dans l'île, mais un peu partout en France. Et c'était de se questionner sur quel va être le devenir, on va dire, de ces espaces. Et aujourd'hui, c'est vrai que. Enfin, c'est difficile de poser cette question et de la poser aussi aux habitants qui habitent ce front de mer. Et pour un maire, c'est très compliqué, d'avoir reçu cette réponse. Enfin, on lui a dit, voilà, je ne sais pas combien tu as d'habitants à cet endroit, mais nous, on te les déplace. Et je trouve ça assez incroyable qu'il ait accepté cette réponse, qu'il ait donné cette réponse comme lauréat.
Et ce qui était assez intéressant, c'était que au moment de faire le concours, quand on a fait la visite de site avec la ville, ce sujet de la montée des eaux n'était pas trop présent. En tout cas, ça n'a pas été beaucoup commenté.
Non.
Et on sent que c'était un sujet un peu tabou. Et l'idée, c'était vraiment de mettre les mots dessus. Parce que pour nous, même s'ils avaient plein de projets et que c'était hyper intéressant, ce sujet-là, il devait être un peu central et un peu la colonne vertébrale d'une pensée.
C'était commencer par déterrer le cadavre avant d'attaquer le projet.
Je pense que c'était partir de cette contrainte, entre guillemets, de cette montée des eaux et de cette submersion, pour faire le projet et de le voir comme quelque chose de positif.
Ouais.
Et pas quelque chose qui...
On
qu'il faut voir comme quelque chose, voilà.
On pourrait baisser les bras face à ça, et nous, on s'est plutôt dit, non, mais on peut faire les choses différemment, et ce soit vraiment une occasion positive de faire les choses différemment.
Oui, et puis c'est peut-être pour vous qui... Vous êtes architecte, c'est peut-être l'occasion de réparer toutes ces mochetés
oui.
qui ont poussé un peu partout.
Oui.
Il faut quand même le dire.
Ah ben ça...
Et même le commun des mortels qui vend debout contre les architectes, non mais c'est vrai,
on
parle de France moche, mais il faut qu'ils comprennent que c'est pas les architectes forcément qui a construit cette France moche, mais en même temps, c'est votre génération, vous avez un enjeu extraordinaire, c'est de vous emparer de ce sujet.
Il y a un sujet qui est hyper profond, je sais pas si en tant qu'archi on peut changer les choses, mais c'est que celui quand on a une commande privée, ce qu'on nous demande de construire, des fois, c'est pas ce qu'on aimerait faire. Par exemple, moi, je pense beaucoup à la réversibilité des bâtiments, où des fois, on nous demande, pour des raisons de rentabilité, toujours de ratio, d'Excel, de faire des bâtiments avec des toutes petites hauteurs sous plafond, de faire des logements tout petits, avec des systèmes constructifs pas du tout réversibles. Et en fait, tout ça, ça nous amène au final à construire ce qu'on pourrait appeler des mochetés, parce que au final, c'est pas réversible à long terme. Ça pourra pas être autre chose que du logement ou du bureau ou ce que ce sera. Et enfin, on continue à en faire des mochetés. Enfin, ce qu'on aimerait bien, oui, de plus en plus, c'est de prendre ces questions comme des vraies questions d'avenir et d'intérêt général.
Général. Mmh. Oui. Mais alors, justement, c'est dans votre rapport avec vos maîtres d'ouvrage, il faut aiguiser votre discours. Et c'est...
En tout cas, sur Europa, on a la chance, ouais, une grande chance, d'avoir la commune de Le Palais qui est hyper à l'écoute de tous.
C'est vrai que le maire est très... Ouais. Bah, déjà, le fait qu'il ait accepté cette réponse, qu'on soit lauréat avec une réponse aussi forte et aussi...
Alors justement, sur ce sujet, il y avait beaucoup, j'imagine, Belle-Île en mer, il y avait,
oui,
beaucoup
c'est
de
la...
le dossier.
Oui, ouais, c'est le...
Deuxième,
c'est
je crois.
Non, c'est celui qui a eu le plus de réponses.
Ok. Ouais.
C'est pas celui qui a eu le plus grand nombre de
candidatures, ouais,
mais celui qui a eu le plus de réponses, je crois 28.
D'accord. Et en fait, c'est vous qui avez, a priori, répondu vraiment...
Après, on est co-lauréat. Hein.
Oui,
je ne sais pas si on l'a dit, il y a deux lauréats.
Il y a deux lauréats, ouais,
oui.
Il y a nous et l'atelier Bergemila.
D'accord.
Mais je pense que nos discours étaient assez complémentaires.
En fait, nous, on s'est vraiment tourné vers cette réponse de montée des eaux et de submersion. Et eux ont plus vu l'échelle de l'île. Donc, on a une réponse qui est plutôt complémentaire.
C'est du paysage et du rapport au continent.
Voilà.
Qui était aussi très, très intéressante. Mais toutes les réponses, enfin, nous, on a pu en voir quelques-unes un peu là, au fur et à mesure, les gens, les ateliers dévoilent un peu leur profession. Et c'était hyper intéressant parce que tout le monde avait une façon de répondre et avec des sujets centraux qui n'étaient pas forcément le nôtre. Nous, c'était la montée des eaux, il y en a d'autres, c'était d'autres. Mais ils répondaient quand même à la question et c'était assez intéressant.
Bon, bah, c'est passionnant. J'espère en tout cas que ça va intéresser tout à chacun. Vous vouliez conclure sur ce projet ?
Ouais, on a vraiment hâte de pouvoir continuer et de pouvoir faire vraiment...
Que vos propositions aboutissent.
Voilà.
Que
voir la suite, rencontrer les habitants surtout. Parce que,
pouvoir débattre de notre projet.
Là, j'ai discuté un peu l'autre jour avec beaucoup d'habitants et c'est vrai qu'il y en a plein en fait, qui sont venus au vœu du maire pour voir les quelques planches qu'on a présentées d'Europan et on sent vraiment une volonté aussi de la part des habitants parce que je pense qu'ils sont face à...
Beaucoup d'interrogations.
Voilà, à beaucoup d'interrogations. Et en fait, le maire a un peu communiqué dessus, ce qui est très bien, mais il n'en a pas assez dit. Et voilà, ils sont dans l'attente. Mmh. Et nous aussi, du coup, on est dans l'attente.
Ouais. Non, ce qui est difficile, c'est... pour ses habitants, c'est d'avoir, par exemple, investi toutes les économies d'une vie et de voir ça complètement partir.
Donc, c'est pour ça qu'il faut y penser dès aujourd'hui.
Bien sûr.
Parce que c'est quelque chose qui arrivera, c'est sûr, pas demain.
Et plus on le fait ensemble, plus on est fort.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est pour ça que vraiment notre proposition, c'est plus des... Enfin, moi, je pense que c'est plutôt des questions qu'on pose plutôt que des réponses qu'on apporte, des solutions. Et notre volonté, c'est certes, oui, on a fait cet exercice d'une réponse un peu structurée, etc., pour Europe 1, mais tout est discutable et tout est repensable par rapport à la richesse de ce que nous dirons les habitants, la mairie, enfin, tous les acteurs du territoire de Belle-Île.
Alors justement, faire territoire aujourd'hui et faire architecture, c'est peut-être prendre en compte que ça bouge. Que tout bouge, que tout change et que tout finit par passer.
Ouais.
Grosse question.
Non, mais moi, je trouve que c'est hyper important de ne pas penser comme architecte, comme proposer quelque chose de figé et que notre opinion, c'est celle qui doit vraiment porter, mais plutôt être ouvert à tout et pouvoir faire en sorte que son opinion ou les solutions qu'on apporte en tant qu'architecte puissent changer.
De l'évolutivité.
Ouais.
C'est votre image du monde de demain ?
Ouais. On va dire que le monde d'aujourd'hui, c'est quand même un monde qui est porté pas mal par l'argent. Et c'est toutes les solutions qui sont amenées au problème. C'est toujours des solutions de croissance ou de tout ça, quelque chose qui soit assez rentable. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que le monde de demain, ce soit plutôt un monde responsable où le seul facteur, ce soit pas forcément l'argent, mais...
Mais il y aura toujours de l'échange, de toute façon. Et l'argent, ça matérialise l'échange. Après, c'est peut-être la question de la responsabilité.
Mais c'est peut-être la croissance qui est le sujet que l'argent lui-même.
Ouais. D'où la responsabilité, parce qu'une croissance aveugle, c'est clair qu'on va droit dans le mur.
Je dirais aussi que c'est arrêter d'attendre le dernier moment pour agir. Ouais. Et le dicton reculer pour mieux sauter aussi, arrêter de penser à ça.
De se voiler la face.
Voilà, de penser des choses... arrêter d'attendre la révolte des gens comme on voit aujourd'hui avec la crise des agriculteurs ou le dernier moment pour que les gens perdent tout comme on voit dans les inondations dans le Nord. C'est penser des solutions pérennes et les penser sur du long terme, comme on a essayé de donner dans cette réponse.
Et puis peut-être aussi que le destin de chacun doit être pris en main.
C'est-à-dire
qu'on doit ne plus... Il faut qu'on soit proactif.
Mais c'est ça en fait. Ouais. C'est aussi un monde... Je pense que le monde demain, c'est aussi un monde plus responsable, où chacun est un peu, comme on dit, citoyen acteur.
Ouais.
Et où... c'est aussi ce qu'on propose un peu dans Repens. C'est se dire que les solutions, ça passe aussi par une économie locale, par... le fait que tout un chacun puisse se saisir des problèmes et apporter sa pierre à l'édifice.
À l'édifice, puis retrouver le bon sens,
c'est ça
qu'on a perdu.
Mais après, je trouve que ça revient de plus en plus, parce que plus ça va, plus les gens ne prennent plus l'avion pour voyager, parce qu'ils se sont rendus compte du poids carbone que ça implique. Plus ça va, plus les gens font attention à ce qu'ils mangent, parce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont dans l'assiette. Donc c'est quand même un mouvement qui, en étant un peu optimiste, commence à venir petit à petit.
Et puis peut-être... Enfin, l'avion et la voiture, c'était des inventions extraordinaires. Peut-être que ça aussi, il faut que ça soit... qu'il y ait une mutabilité dans la manière dont c'est... on l'utilise. Voilà, sans forcément devenir dogmatique et dire non.
C'est ça. C'est hyper important. Enfin, nous, nos Erasmus, ou le fait qu'on vive à Barcelone et qu'on fasse des projets ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ça mixe les regards et ça permet de... un certain recul, mais même géographique, sur certains territoires, c'est hyper important. Mais il faut quand même, je pense, être conscient et responsable de cet acte-là, en tout cas de prendre ces moyens de transport.
Bon, y a beaucoup de travail, devant.
sur la planche.
Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture ?
Qu'il faut continuer dans ce beau métier et qu'il ne faut pas baisser les bras. Et que c'est ensemble qu'on va améliorer les choses avec toutes ces convictions qu'on nous a apprises à l'école. Et qu'il faut surtout croire en soi, que parfois c'est vrai que c'est dur, on est fatigué, mais que c'est quand même, ça nous donne des belles clés en main pour la suite. Et qu'il faut aussi s'épanouir dans ses études, pour son futur métier.
Et aussi leur dire que c'est très bien tout ce qu'on apprend à l'école, mais il ne faut jamais oublier de critiquer son propre apprentissage. Et quand je dis critiquer, c'est le remettre en question, parce que finalement, c'est un peu mon parcours, entre ce que j'ai appris à l'école et ce que aujourd'hui j'essaie de faire en tant qu'architecte, c'est pas du tout la même chose. Et je trouve ça hyper important de pas oublier que ce qu'on nous apprend, c'est juste un point de vue, surtout dans le projet par exemple, et que le remettre en question, c'est aussi développer une nouvelle pensée qui peut enrichir. Et c'est toujours en s'appuyant sur la pensée des jeunes générations qu'on peut avoir un discours le plus pertinent possible. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas. Plus on vieillit, moins...
Moins on a d'idées.
Non, pas moins on a d'idées. Mais plus on vieillit, plus il y a des choses qui nous échappent. Par exemple, moi, TikTok, ça m'échappe un petit peu.
sens-là, oui. Non, je pense que... Alors, moi, je suis d'une génération où on nous apprenait beaucoup à écouter les anciens. Et je suis très heureuse d'appartenir à cette génération parce que on ne ferme pas la porte.
C'est hyper important de pas fermer la porte, mais un peu de tout s'écouter en fait. C'est un peu ça que je veux dire.
Mais
écouter et remettre en question.
Mais bien sûr, après, je crois que chaque âge a des choses à exprimer et à dire. Et c'est justement de pouvoir exprimer des points de vue différents et de savoir écouter l'autre.
Enfin, exactement.
En tout cas, c'est peut-être des grandes paroles. Mais il faut essayer en tout cas de garder ça en tête.
Écouter, c'est important.
Et mettre en commun aussi. Enfin, toutes ces idées, je pense que quand on sort de l'école, on a un côté très utopique.
Oui.
Et quand on est un architecte qui travaille depuis très longtemps, on a appris le métier. Et que les deux ensemble, en fait, ça fait vraiment des belles choses.
Ouais.
De ce mixage de créativité et de connaissances.
Bien sûr.
Et je pense qu'on a tous à s'apporter...
Les uns les autres,
bien sûr.
Et on parlait tout à l'heure du fait de travailler avec des gens qui ne sont pas architectes. Et ça aussi, je pense que c'est très intéressant de continuer. C'est vrai qu'à l'école d'archi, on a beaucoup de matières. On n'apprend pas que à être architecte. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que on sort de là, on a envie de voir, de travailler avec d'autres personnes. Parce qu'on a vu de la sociologie, de l'histoire, même de la photographie.
Ouais, de tout.
De tout.
Ouais, c'était pas riche.
Mmh. Ouais. Est-ce que, par rapport à la discipline architecturale, il n'y a pas une dilution si on est trop ouvert? Est-ce qu'il y a un moment donné où il faut ramener ça à une matière construite, qu'elle soit existante ou pas d'ailleurs?
Mais je pense qu'on dit transdisciplinaire, ça ne veut pas dire oublier l'architecture ou l'urbanisme. C'est juste accepter d'autres, enfin, ce qu'on disait au début, accepter d'autres regards. Et que notre pratique, en fait, elle peut pas être monothématique et centrée seulement sur l'acte de construire, mais il faut aussi regarder à droite et à gauche. Et ça amène, je pense, à des propositions, comme ce qu'on a fait à Ropan, de dire, bah, en fait, ici, le mieux, c'est de ne pas construire et de déconstruire.
Mmh. Je préférerais que la boucle soit bouclée avant que nous passions à la conclusion. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour achever cette interview ?
Merci beaucoup pour l'invitation.
Non, bah, je vous en prie. Bon. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.